Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le ministre de la Défense du Burkina Faso, Chérif Sy, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Tene Brahima Ouattara, ont indiqué hier à Ouagadougou vouloir mutualiser leurs efforts dans la lutte anti-djihadiste. Lamine Traoré, notre correspondant sur place, nous donnera les détails. Un casque bleu a été tué lundi dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque des ADF contre un camp de la mission de l'ONU dans ce pays. Marius Moung fera le point. Un ressortissant français chez qui la police a trouvé un très important arsenal d'armes de guerre a été arrêté lundi à Bangui en République centrafricaine où l'armée combat une rébellion. C'était quelqu'un qui se disait journaliste, a dit à l'AFP le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagi, sans davantage de détails. Coronavirus, 5 cas du variant indien ont été recensés à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, dans un immeuble abritant des personnes d'origine indienne. La situation est cependant sous contrôle, a assuré lundi le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mungani Manda. Au moment où l'Europe allège ses restrictions anti-Covid, ce variant indien a été classé comme préoccupant, a annoncé hier l'OMS, notamment parce qu'il est plus contagieux et que des éléments permettent de penser qu'il présente un degré de résistance au vaccin. Le laboratoire allemand BioNTech estime que son vaccin développé avec l'américain Pfizer n'avait pas besoin à ce stade de modification pour être utilisé contre les variants. Et il a annoncé hier une extension de ses capacités de production en Asie. L'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis, a annoncé lundi l'Agence américaine des médicaments. En Europe, une mesure similaire pourrait intervenir rapidement. L'armée israélienne indique avoir tué 15 membres de groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza, enclave sur laquelle elle a mené 130 frappes en riposte à des tirs de roquettes. Et lundi, quelques 520 Palestiniens et 32 policiers israéliens ont été blessés dans de nouveaux heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Nous y reviendrons avec Jacques Aristide. Un bâtiment de la marine américaine a tiré des coups de semonce contre plus de 12 navires iraniens qui s'étaient rapprochés d'un sous-marin américain dans le détroit d'Ormuz, a indiqué hier le Pentagone. La Chine a réclamé lundi aux États-Unis, à l'Allemagne et au Royaume-Uni d'annuler une visioconférence mercredi sur la répression de la minorité musulmane des Ouïghours dans la région du Xinjiang et appelé les membres de l'ONU à ne pas y participer. Le président Joe Biden a accusé lundi un groupe criminel basé selon lui en Russie d'avoir mené l'attaque informatique qui a paralysé l'un des plus grands opérateurs d'oléoducs américains. L'ambassade russe à Washington a démenti toute implication de Moscou dans cette attaque informatique. Les républicains de la Chambre des représentants s'apprêtent à voter demain pour évincer de leur hiérarchie Liz Cheney, la fille de l'ex-vice-président Dick Cheney, tombée en disgrâce pour ses vives critiques de l'ancien président Donald Trump, annonce leur chef Kevin McCarthy. L'entraînement de l'équipage qui doit constituer en janvier la première mission entièrement privée vers la station spatiale internationale est sur le point de commencer, annonce la société Axiom Space lors d'une conférence de presse commune avec la NASA. La sonde américaine Osiris-Rex a définitivement quitté lundi l'orbite de l'astéroïde Bennu, dont elle a collecté des échantillons de poussière l'année dernière pour entamer son très long voyage vers le retour. Son long voyage retour vers la Terre, elle doit atterrir aux États-Unis le 24 septembre 2023. La soirée de lundi a été historique en NBA puisque Russell Westbrook a battu le record vieux de 47 ans d'Oscar Robertson du plus grand nombre de triple doubles réussis, 182.
La suite de nos informations, le ministre ivoirien de la Défense, Tene Birayima Ouattara, était lundi à Ouagadougou pour une visite de travail avec les autorités burkinabées. Le Burkina et la Côte d'Ivoire veulent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Et hier aussi, l'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé plusieurs bases terroristes. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le ministre Ouattara a eu lundi une séance de travail avec son homologue burkinabé Chérif Sy avant de se rendre à Kossiam pour rencontrer le président Roch Kabore. Une forte délégation l'accompagne à Ouagadougou. Il a été question au cours de cette visite de sécurité, notamment de la lutte contre le terrorisme. Tene Birayima Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire.
Nous sommes des pays en développement, nous n'avons pas beaucoup de moyens et il est important que nous puissions les mettre ensemble pour lutter efficacement contre ce fléau.
Chérif Sy, ministre de la Défense du Burkina.
Nous avons eu à mener ensemble un certain nombre d'opérations pour faire reculer cette adversité-là.
Par ailleurs, hier, l'armée burkinabé a annoncé avoir lancé depuis le 5 mai une vaste opération militaire dans le nord du pays. Selon l'état-major des armées, au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et 4 bases djihadistes détruites. Selon les Nations Unies, au moins 45 personnes ont été tuées par les récentes violences au Burkina, qui ont également forcé plus de 17 500 personnes à fuir leur foyer au cours des 10 derniers jours. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, un casque bleu a été tué hier dans l'attaque d'un camp de la mission de l'ONU dans la région de Beni. Cette attaque attribuée aux forces démocratiques alliées intervient en même temps que la prise de fonction des gouverneurs militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le point avec Marius Muhunga.
Une femme caporale de 28 ans a été tuée dans l'attaque de la base des Kilia, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Beni, selon un communiqué du ministère de la Défense du Malawi. Cette base avancée de la MONUSCO abrite des éléments de la force d'intervention rapide. Les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, plus connues sous l'acronyme anglais ADF, ces 18 derniers mois, sont accusés des massacres des plus de 1000 civils. En décembre 2017, ils avaient tué 15 casques bleus tanzaniens dans l'attaque de leur base en territoire de Beni. En décembre 2018, 7 autres casques bleus ont été tués dans une embuscade. Le 6 mai dernier, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été placées sous le régime de l'état de siège pour tenter de juguler la violence. Les gouverneurs militaires ont officiellement pris leurs fonctions hier lundi. Le général Constant Ndima, à la tête du Nord Kivu, et le général Johnny Luboya doivent diriger l'Ituri. Ils remplacent les autorités civiles pendant 30 jours, renouvelable par quinzaine.
Les États-Unis ont condamné hier le plus fermement possible les tirs de roquettes du Hamas contre Israël. Le Hamas a fait état hier d'un bilan d'au moins 20 morts, dont 9 enfants, dans les frappes israéliennes sur Gaza. Les violences entre Palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem ont suscité de nombreuses autres réactions. Le point avec Jacques Aristide.
Washington dénonce une escalade inacceptable et appelle toutes les parties au calme et à la désescalade. Nous reconnaissons le droit légitime d'Israël à se défendre, à défendre son peuple et son territoire, a dit le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, tandis que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de répondre avec force. Plus largement, nous sommes profondément préoccupés par la situation en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, notamment par les confrontations violente à Jérusalem, ajoute Ned Price, saluant les mesures prises par le gouvernement israélien ces derniers jours pour éviter les provocations. Il a toutefois fait part du soutien américain aux manifestations pacifiques. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier en urgence, mais sans s'entendre sur une déclaration commune. L'Union européenne a se dit profondément préoccupée. Son chef de la diplomatie, Josep Borrell, affirme qu'il est important que tout soit fait pour éviter d'alimenter les tensions. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui condamné ce qu'il qualifie de terrorisme israélien à Jérusalem. Pour l'Iran, il s'agit d'un crime de guerre d'Israël. Des pays arabes, dont plusieurs ont récemment normalisé leurs relations avec Israël, Soudan, Maroc, Émirats arabes unis et Bahreïn, ou l'Algérie, ont également vertement critiqué Israël.
La La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Soudan est parvenu à un accord avec le Fonds monétaire international pour l'allègement de sa dette. Le Soudan cherche à liquider au moins 50 milliards de dollars de dettes. La France accueille ce mois-ci une conférence pour promouvoir l'investissement et l'allègement de la dette soudanaise. Khartoum a récemment obtenu des prêts de donateurs pour apurer ses arriérés de dettes auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le Mali a récolté 10,4 millions de tonnes de céréales cette année, soit une légère hausse par rapport aux 10,3 millions de tonnes en 2020. Le maïs et le riz, qui représentent plus de 67% de la filière céréalière, ont contribué à cette performance. La production du mil, du sorgho, du fonio et du blé a plutôt décliné. Cette petite embellie devrait permettre au Mali d'enregistrer un excédent de 3,9 millions de tonnes de céréales et de reconstituer ses stocks stratégiques. Pour terminer, le COVID-19 a eu des conséquences dévastatrices pour les petits exploitants agricoles africains, affirme la Banque mondiale. La désorganisation des chaînes d'approvisionnement a compliqué l'accès aux semences, engrais et services, empêchant les agriculteurs d'être prêts à temps pour les périodes de semences. Par ailleurs, les organismes publics et les agences de crédit ont encore réduit leur aide, déjà limitée aux petits exploitants. En plus, les restrictions sur les déplacements empêchent les cultivateurs de se rendre sur les marchés pour écouler leurs produits.
Merci Nanit. Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le match de Super Coupe d'Afrique opposant les Égyptiens d'Al-Ahly aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane aura lieu finalement le 26 mai à Doha. La pandémie de Covid-19 et des désaccords sur le lieu de la rencontre ont obligé à décaler ce match qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions CAF à celui de la Coupe de la Confédération. Al-Ahly, vainqueur de la Ligue des champions, justement, a remporté 6 fois la Super Coupe en 8 participations. La dernière en 2014, Renaissance Berkane. La dispute de son côté pour la première fois. Ce sera la 3e finale d'affilée à avoir lieu au Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, dans le but de donner davantage d'envergure internationale à la Super Coupe selon la CAF. Edinson Cavani et Manchester United ont levé l'option d'une année supplémentaire qui figurait dans le contrat du joueur. L'attaquant international uruguayen restera donc au club mancunien jusqu'à juillet 2022. Cavani, 34 ans, est arrivé chez les Red Devils en octobre dernier, avec un contrat d'une saison avec une seconde en option. El Matador en est à 15 buts avec les Red Devils, dont 8 inscrits pendant ses 7 derniers matchs. Manchester United disputera la finale de la Ligue Europa contre le club espagnol de Villarreal le 26 mai et occupe la 2e place de la Premier League. Retour sur le continent pour parler d'athlétisme. Les Jeux Olympiques de Tokyo vont se dérouler du 23 juillet au 8 août prochain. Parmi les athlètes qui y prendront part figure la jeune rameur togolaise Claire Ayivon. Celle qui rêve d'une médaille olympique va concourir dans la discipline d'aviron. Claire Ayivon ou l'espoir du Togo pour une 2e médaille olympique. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Depuis son premier exploit en 2008, grâce à Benjamin Boukpeti qui a décroché une médaille de bronze pour le Togo en canoë-kayak, le pays rêve d'un second sacre. Pour les Jeux d'été de cette année, c'est Claire Ayivon, la jeune rameur de 24 ans qui porte l'espoir de tout le pays et elle en est consciente.
Je promets de travailler et de redoubler d'efforts pour ma performance pour pouvoir rapporter la 2e médaille pour le Togo.
En plus du matériel indispensable pour son entraînement, la jeune athlète bénéficie d'un suivi spécialisé. Loniwa Lemou, attaché de cabinet au ministère des Sports et des Loisirs.
Claire Ayivon a bénéficié également d'un accompagnement médical et d'un appui nutritionnel adéquat pour qu'elle puisse se sentir au mieux de sa forme.
6 jours sur 7, Claire Ayivon s'entraîne sur le lac Togo. Elle va s'envoler dans quelques jours pour la Tunisie pour un stage en vue d'améliorer son chrono. Claire Ayivon n'est pas à sa première participation aux Jeux Olympiques. Elle était déjà à Rio en 2016. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Merci, Kai.
Merci, Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La communauté musulmane malienne s'achemine vers la fin du mois de Ramadan, un mois couronné par la fête de l'Aïd el-Fitr, occasion pour les fidèles de faire les marchés pour faire des achats et se faire belle pour certaines. Mais cette année, les clients se font désirer dans les marchés, notamment au hall de Bamako, où notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, s'est rendu. Reportage.
En cette veille de fête de Ramadan, ce n'est pas le grand rush au hall de Bamako en commune 6 de la capitale. Si circuler dans ce marché est un parcours du combattant à cause des étals qui occupent pratiquement toute la route, ce n'est pas la bousculade dans les différentes boutiques, notamment celle de vente de bazin, ce tissu prisé par les Maliens à l'occasion des fêtes. Nous vendons des bazins riches Gesner, des Pagnvax, des Binta et des Petits Hollandais. Cette année, on n'a pas trop de clients comme les années précédentes. C'est dur. Venu se faire une pédicure-manicure, la jeune Adam attend depuis plusieurs heures. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de clientes avant elle, mais parce que la coupure intempestive de courant empêche le responsable du salon de travailler.
Le marché pour se tresser, faire manicure, pédicure, mais ce qui nous handicape plus, c'est le courant, l'électricité. Ça handicape l'intérieur, tout le monde a fait son travail. Vraiment, nous les femmes, on souffre au foyer, dans le marché, partout quoi.
Pour les rares femmes qui se présentent au marché pour se faire belle et faire des achats, c'est toujours avec la peur au ventre, car les risques de contamination au coronavirus sont élevés, les mesures barrières n'étant pas respectées dans les marchés.
Depuis le matin, on est venu pour ça. Hein. Les femmes ont commencé à se préparer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Franchement, maintenant, là, c'est un peu trop dur avec le coronavirus et tout ça. En tout cas, on est là. Moi-même, je suis venue aujourd'hui pour faire péricule, manicure, voilà, et puis aussi un peu de gommage, voilà, tout va bien.
Les plus acculés, les années précédentes, les tailleurs estiment que ce ne sera pas le cas cette année, compte tenu de la faiblesse des commandes. Des commandes honorées dans les délais. On se débrouille, mais ce n'est pas la grande affluence comme les années passées. Cette année, on n'aura pas de soucis de commandes non livrées. Tout va bien se passer. Avec ou sans argent, les Maliens s'apprêtent à fêter dans la symbiose la fête de l'Aïd el-Fitr, occasion de partage et de communion, et surtout de prière pour le retour de la paix au Mali. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, il est interdit aux musulmans de faire des prières collectives nocturnes, comme c'est le cas habituellement, pendant les dernières nuits du Ramadan. Les autorités entendent ainsi éviter la propagation du Covid-19. Mais cette décision a provoqué dans le pays des manifestations violentes. Une personne a été tuée. Le point avec Zakaria Camara.
L'interdiction des prières collectives nocturnes était inscrite cette semaine à Conakry à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Le gouvernement guinéen justifie la mesure. Thibaut Camara, ministre d'État, porte-parole du gouvernement.
Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y a toujours des violences, qu'il y a toujours des actes de vandalisme. Et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire. Il rappelait ce matin en conseil que dans des discussions justement liées un peu à tous ces événements qu'il a eu avec un certain nombre de guides religieux, il a attiré leur attention sur le caractère exceptionnel de la vie que chacun de nous subit du fait de cette pandémie.
Les musulmans pratiquants ont manifesté dans plusieurs villes contre l'interdiction des prières collectives pendant les 10 derniers jours du Ramadan. À Kérouané, à l'est du pays, un jeune a perdu la vie après avoir reçu une balle dans la nuit du mercredi à jeudi. À Conakry, ils sont nombreux à ne pas comprendre cette mesure interdisant les prières collectives nocturnes.
Au marché, sans décider des sous, on ne comprend pas. Donc il y a assez de frottement. Pourquoi on n'a pas interdit ces rencontres-là dans les différents marchés, alors qu'on interdit les rencontres dans les mosquées pendant les prières? Je trouve incohérent une telle mesure.
Même s'il y a eu des protestations dans la capitale et quelques villes du pays, certains Guinéens semblent être en phase avec cette décision du secrétariat général des affaires religieuses. Au total, la Guinée a enregistré 22 602 cas confirmés au Covid-19, dont plus de 20 000 guéris et 150 décès. Autre chiffre, plus de 57 000 personnes ont reçu leur dose de vaccin. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Escalade à Jérusalem-Est après des jours d'affrontements entre manifestants palestiniens et forces de sécurité israéliennes aux alentours de l'esplanade des mosquées. Ce lundi, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a tiré plusieurs roquettes sur Israël. Des frappes israéliennes ont fait au moins 9 morts, dont un haut commandant du Hamas. Sur la dégradation de la situation entre Israéliens et Palestiniens, Abdulrahman Dia a joint à Tel Aviv Eli Carmon, analyste à l'Institut international antiterroriste de Tel Aviv.
Le Hamas voudrait arrêter maintenant son action parce qu'il a vraiment déjà provoqué Israël. Il s'est montré, très fort vis-à-vis de la population palestinienne et israélienne. Mais c'est clair que le gouvernement israélien, le peuple israélien ne peut pas permettre une telle situation, surtout que le tir de roquette a été vers Jérusalem, vers la ville sainte, et aussi dans les villes plus lointaines de la frontière de Gaza.
Alors justement, pour parler un peu de la politique intérieure israélienne, vous pensez que cette escalade à Jérusalem-Est pourrait influer sur les négociations concernant la formation d'un gouvernement ?
Bien sûr, bien sûr. Et justement parce que la balance était dans les mains d'un parti islamiste israélien, Ram, qui a décidé d'être actif dans la constitution de gouvernement d'un côté ou de l'autre, à condition de recevoir des contreparties politiques et économiques importantes. Maintenant, le fait qu'il y a une crise militaire, cela pourra provoquer il y a déjà un arrêt des négociations et du fait qu'il y a certains politiciens qui pensent que le Premier ministre Netanyahu aurait utilisé la situation en sa faveur parce que la tension peut justement changer la donne et lui permettre de constituer un gouvernement. Maintenant, il faut savoir aussi que le Hamas préfère la continuation du gouvernement de Netanyahu affaibli, justement parce que la politique ou la stratégie de Netanyahu depuis 10 ans, c'est de laisser Hamas occuper et faire sa volonté à Gaza, même payer à travers le Qatar les sommes nécessaires pour maintenir économiquement le Hamas, mais en même temps suivant une politique assez contraire aux intérêts de Abu Mazen et de l'autorité palestinienne.
Et quelle est justement la marge de manœuvre de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne ?
Les autorités de sécurité palestinienne coopèrent avec Israël. Par exemple, il y a eu un attentat il y a 2 ou 3 semaines où 3 citoyens israéliens ont été blessés, 1 est mort. Et les services de sécurité palestiniens coopèrent avec Israël parce qu'ils comprennent très bien que Hamas, en fait, veut prendre le contrôle de l'autorité palestinienne et à ce moment-là, il sera fini comme leader, comme dirigeant du peuple palestinien. D'ailleurs, le Hamas, par le passé, a tenté de l'assassiner il y a 12 ans près de sa maison à Gaza. Sa maison était à Gaza. Ils ont préparé un attentat qui a été déjoué au dernier moment.
L'analyste politique Eli Carmon, joint à Tel Aviv.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la loi Taubira sur l'esclavage à 20 ans.
Elle est la première législation à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Plus de 170 ans après son abolition, les réparations morales et financières font toujours débat. Et son héritage reste lourd aujourd'hui, selon les activistes, avec la discrimination et le racisme. Pendant ce temps, en Afrique, la pratique de l'esclavage persiste dans certains pays, malgré son interdiction dans les textes en vigueur. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et VOA Afrique.
La France a organisé hier la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, qui est marquée cette année par les 20 ans de la loi Taubira de 2001, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. À côté des revendications de réparation qui exigent beaucoup, d'autres estiment que c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur la mémoire de l'esclavage afin de déconstruire les préjugés qui se trouvent dans les livres et combattre les inégalités qui en découlent. Tel est le point de vue de Jean-Éric Sindé, éducateur, attaché parlementaire et chargé de mission mémoire et histoire de l'esclavage chez Africa 50, un collectif d'associations. Joint au téléphone par Nani Talani à Lyon en France, écoutons Jean-Éric Sindé.
Cette commémoration représente un moment où on peut donner vraiment un espace pour que nos amis, nos frères de l'outre-mer et des anciennes colonies puissent avoir un moment de revendication, surtout sur les questions des inégalités qui existent dans le monde. C'est vraiment un moment de faire la promotion de la paix, de la fraternité, de la notion de respect, de la liberté, de l'égalité.
Comment cette mémoire est-elle transmise aux nouvelles générations ?
Le temps de l'école. Et depuis une dizaine d'années, nous avons le docteur Lisa Marie Aubret, qui est professeur associé au département d'études afro-américains de Arizona State University aux USA, qui vient tous les ans et on discute avec les élèves dans les écoles. L'objectif, c'est connaître l'histoire de l'esclavage, mais pas du commerce triangulaire, justement. Le quatrième objectif, c'est un objectif citoyen, ce qu'on appelle le devoir de mémoire. On utilise aussi le sport, l'entrée artistique, l'entrée culturelle pour amener tous ces jeunes de prendre conscience de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un dispositif qui s'appelle déconstruire les préjugés dus aux origines. Ça permet aussi à cette jeunesse de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne vaut rien. Donc à travers ça, les jeunes générations prennent conscience de la justesse de leurs origines.
La loi Taubira en 2001 tendait à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Que devient cette loi 20 ans après ?
Il n'y a jamais eu d'aménagement sur la loi. Par contre, 20 ans après, on peut s'appuyer justement sur l'article 2. L'article 2 qui dit que l'histoire de l'esclavage doit être enseignée dans les programmes scolaires. Donc on peut vraiment s'appuyer là-dessus, la première chose. Et la deuxième chose, quand on parle de crime contre l'humanité, effectivement, ça veut dire qu'un crime peut avoir des réparations, mais ces réparations peuvent être d'un geste symbolique. Et en fait, l'aménagement de cette loi, c'est qu'il y ait vraiment plus d'égalité, de réduire les inégalités mondiales. On pouvait l'aménager comme ça, mais sinon la loi elle-même, 20 ans après, il n'y a rien qui a été fait de concret, à part d'autres dispositifs pour réduire les inégalités en France, par exemple.
Qu'est-ce que l'Afrique pourrait retirer de telle commémoration ou de la transmission de cet héritage aux nouvelles générations ?
Il y a un gros travail à faire avec l'Afrique. Le problème de l'esclavage, c'est que chacun a un bout. L'Afrique a un bout, là où ont été déportés les Africains, un autre bout. Et le rôle, c'est vraiment de faire la jonction entre ces deux bouts. Et moi, j'ai saisi M. Kodo Dang il y a quelques années, le président du Parlement africain en Afrique du Sud. Et je lui avais dit justement qu'il fallait qu'on essaye de mettre en place des journées nationales africaines de la déportation. Parce que c'est vrai, j'ai quand même déporté plus de 30 millions de personnes.
Jean-Éric Sindé, éducateur, attaché parlementaire et chargé des missions mémoire et histoire de l'esclavage chez Africa 50, un collectif d'associations. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.